Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, magazine des industries culturelles et du numérique. C'est désormais tous les dimanches de 18h10 jusqu'à 19h30 et en direct. Un pays, deux systèmes, tel est le slogan derrière lequel s'abritent encore les Hongkongais, de plus en plus inquiets, sinon désespérés, par les tentatives répétées de la Chine de reprendre en main et de reprendre le pouvoir sur Hong Kong. Depuis le 31 mars dernier, les habitants défilent dans les rues, souvent par millions, contre un amendement de la loi d'extradition. Et ce dimanche, aujourd'hui donc, la situation a une nouvelle fois dégénéré avec de nouvelles violences, la police ayant eu recours au gaz lacrymogène et au canon à eau contre des militants pro-démocratie qui jetaient des pierres et des cocktails Molotov lors donc d'une manifestation qui était interdite. Nous allons consacrer ce soir la plus large partie de cette émission à la situation à Hong Kong, mais aussi aux nouveaux outils de mobilisation des activistes, leur rapport aux messageries cryptées ou aux caméras de reconnaissance faciale, ainsi que bien sûr aux usages de la police et de la sécurité chinoise. Avec nous ce soir en direct, Elliot Lepers, et chroniqueur de cette émission, il revient de Hong Kong. Un mot juste peut-être très rapidement pour évoquer la situation que vous avez découvert sur place.
Moi, je suis arrivé à un moment effectivement où la situation est en train de dégénérer parce que les manifestations commençaient à être interdites. Et donc, y a une mobilisation qui est en train de basculer et j'y étais au moment où l'amendement sur l'extradition a été retiré, en tout cas a été officiellement proposé comme pour être retiré par Carrie Lam, la leader de l'exécutif hongkongais. Et donc, ce qui a été considéré comme une grande victoire au niveau international n'a pas du tout été perçu de la sorte par les activistes qui y voient plutôt un signe de Pékin pour essayer d'apaiser la situation au niveau international. Mais derrière, leurs demandes ont grandement dépassé cette question de l'extradition bill, comme il est appelé. Et maintenant, eh bien, demandent simplement la démocratie qui n'existe pas encore à Hong Kong, même s'il y a des libertés inconnues en Chine, évidemment.
Gilles Fontaine, rédacteur en chef de Challenge et un reporter régulier en Chine. Bonsoir Gilles, vous publiez cette semaine avec Eric Scholl, Il est midi à Pékin, un essai sur l'influence internationale de la Chine. En un mot, de quoi parle ce livre?
En un mot, un projet déjà très ancien, et l'idée effectivement est de raconter l'impact de la Chine aujourd'hui sur la planète en racontant des histoires. Donc on raconte une quarantaine d'histoires sous forme de
à tous les créneaux horaires.
Sur chaque créneau horaire, donc 24 créneaux horaires, plusieurs histoires parfois par créneau horaire, et un petit peu dans tous les domaines, aussi bien culturels, politiques, militaires, économiques, évidemment. Voilà, on essaie de raconter aujourd'hui l'impact et l'empreinte de la Chine.
Qui, au fond, le soft power de la Chine à travers le monde. Il est midi à Pékin, Eric Scholl, Gilles Fontaine. Le Monde à l'heure chinoise s'est publié aux éditions Fayard. Emmanuel Paquette est journaliste à l'Express et vous nous parlerez, vous, Emmanuel, de l'usage notamment des technologies par les activistes hongkongais.
Oui, bonsoir Frédéric, notamment de t-shirts anti-surveillance qui permettent de tromper les caméras d'intelligence artificielle grâce en fait à des logos, à des impressions un peu psychédéliques sur les t-shirts qu'on peut trouver en vente libre sur Internet. On peut tromper l'intelligence artificielle comme quoi on est quand même encore à l'heure de la stupidité artificielle.
Ce soir donc, émission spéciale sur Hong Kong. En première partie d'émission, on reviendra sur l'actualité de la semaine. Les GAFA, Google en tête, mais aussi Facebook, Amazon et Apple, qui sont menacés d'être régulés un peu partout, hein, aux États-Unis, mais aussi en Europe et même en France, Zoé Svez, par le ministre de la Culture, Franck Riester.
Oui, bah, c'est une annonce de la rentrée qui a beaucoup fait parler d'elle, puisque Franck Riester a annoncé en début de mois eh bien, qu'il entendait obliger les nouveaux acteurs, les plateformes OTT, celles existantes et celles qui naîtront dans les mois à venir, à investir dans la création française à hauteur de 16% de leur chiffre d'affaires. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est un engagement réel de la part du ministre de la Culture? On va revenir là-dessus.
Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir, en direct comme désormais tous les dimanches de 18h10 à 19h30. L'émission est réalisée ce soir par Véronique Villa avec en régie Cindy Le Grumelec. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux Abdelila Laloui, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast de l'émission sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 19h30 sur France Culture en direct. L'actualité des industries culturelles et du numérique, première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Emmanuel Paquet de L'Express, The Westfest de France Culture, Gilles Fontaine de Fontaine. Bref, ce soir donc nos chroniqueurs, la régulation des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon est en marche. Emmanuel, avec pour commencer une semaine noire pour Google.
Oui, très noir même, puisque une accumulation de nouvelles un peu partout sur la planète, de mauvaises nouvelles donc pour le moteur de recherche. Ça a commencé aux États-Unis avec 50 procureurs donc de 50 États différents, à l'exception de l'Alabama et de la Californie, là où, en fait, où Google détient son siège, à Mountain View, ont décidé d'ouvrir une enquête pour une éventuelle abus de position dominante dans le domaine de la publicité. Alors, il faut se souvenir quand même qu'il y avait déjà eu une enquête en Europe, de ce point de vue-là, qui avait donné lieu à une sanction de la part de la commissaire à la concurrence, Madame Vestager, qui vient justement d'être reconduite au poste de commissaire à la concurrence pour 5 ans, avec un portefeuille élargi, notamment élargi à tout le numérique, puisqu'elle est aussi vice-présidente de tout ce qui est numérique et technologie de l'information.
Alors que les GAFA espéraient peut-être qu'elle disparaisse dans cette nouvelle gouvernance de l'Union européenne.
Exactement, ce qui était une possibilité, puisqu'elle n'était pas énormément soutenue par son gouvernement, donc le gouvernement danois, en tout cas pour avoir un portefeuille et un poste plus important que lors de la précédente mandature. Donc on voit aujourd'hui que, en fait, la principale ennemie des GAFA, Google en particulier, reprend du service en Europe, que des procureurs ouvrent une enquête aux États-Unis sur des pratiques commerciales, et puis la France, qui a décidé finalement qui a réussi à taxer Google à hauteur de quasiment 965 millions d'euros pour donc fraude fiscale aggravée. Donc c'est une enquête qui maintenant était quasiment terminée en 2015. Il y a eu des appels de la part de Google qui a réussi à faire condamner l'État français dans un premier temps. Et puis finalement, le moteur de recherche a dû céder. Donc on voit que 500 millions d'euros vont partir au parquet financier, au nouveau parquet financier. Et puis 465 millions directement au fisc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les caisses de l'État et une mauvaise nouvelle pour Google. Donc une très mauvaise nouvelle pour Google sur l'ensemble de cette semaine.
Alors Google n'est pas le seul visé, on a aussi des évolutions sensibles, par exemple du côté de Facebook, et on évoquera après aussi d'Amazon et Apple.
Oui, parce qu'effectivement les procureurs, alors là il n'y en a que 8, plus 50, mais 8 qui ont décidé également d'ouvrir une enquête à l'encontre de Facebook, donc ça aussi c'est une mauvaise nouvelle pour le réseau social. Et puis concernant sa crypto-monnaie, donc la Libra, vous savez, c'est cette monnaie que Facebook tente de créer et d'imposer à ses 2,4 milliards d'utilisateurs sur la planète, notamment dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'accès à des systèmes de paiement ou des systèmes bancaires, notamment en Afrique ou dans certains pays d'Asie. Et ben là, pour la première fois, il y a un axe franco-allemand qui s'est mis en place avec les deux ministres de l'économie qui ont dit qu'ils étaient contre la création de cette monnaie, en disant que c'était une question de souveraineté, qu'il fallait protéger les citoyens. Et puis il y a un facteur aussi d'instabilité de l'euro, puisque le Libra reposera sur plusieurs monnaies, dans un panier de monnaies, notamment l'euro. Donc si beaucoup de personnes achètent le Libra, ça peut créer une instabilité sur l'euro. Donc il peut y avoir une incidence indirecte du succès éventuel de cette crypto-monnaie sur la zone euro et sur l'euro. Donc on voit bien aujourd'hui que Facebook se retrouve face à des gouvernements et face aussi donc à une enquête directement de procureurs aux États-Unis. Donc là aussi, une semaine qui n'était pas très bonne pour Facebook.
Sur Google, Facebook et la nomination de Margaret Vestager, réaction peut-être, Gilles Fontaine?
Oui, une très mauvaise nouvelle pour Google, pour Facebook et pour les deux autres des GAFA, notamment pour Google et Facebook. Google a été, il me semble, condamné plusieurs fois au cours des dernières années pour ses pratiques
Madame Vestager,
plusieurs milliards d'euros d'amende que Google n'a toujours pas payé, parce que évidemment Google à chaque fois fait appel de ses décisions et ça traîne en longueur, ça peut durer encore des années. On est un petit peu dans la même séquence que Microsoft il y a une vingtaine d'années, qui était également poursuivi par l'antitrust américaine et par l'antitrust européenne. C'est intéressant d'ailleurs parce que Bill Gates, qui fait l'objet d'une série qui va bientôt sortir sur Netflix, évoque cette période et raconte qu'il avait vécu ça très très mal, enfin que les auditions devant les parlementaires américains étaient retransmises en direct à la télévision, que ses enfants regardaient chacun
leur papa accusé, condamné.
Tous les mots, etc. Alors, c'est un petit peu la même chose. Microsoft a été la cible de plusieurs attorneys généraux américains et du département de la justice. Les enquêtes aux États-Unis et en Europe ont duré plus de 15 ans.
Mais ça montre que ça prend du temps, mais qu'il y a un moment où les États-Unis, FTC, FCC, Département of Justice, c'est très important, le ministère de la Justice, mais aussi tout simplement, parfois jusqu'à la Cour suprême, ce qui a été le cas dans l'arrêt Paramount pour le cinéma, dans l'affaire Microsoft, etc. La justice américaine, elle continue, et indépendamment d'ailleurs du président Trump.
Et on n'arrive pas forcément à un démantèlement de ces géants comme le prône Elizabeth Warren, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, mais en tout cas, on arrive à un Microsoft qui accepte de revenir un petit peu dans des pratiques commerciales plus, puisqu'il faut savoir que l'aboutissement de tout ça à l'époque de Microsoft, c'était quand même que Microsoft arrête de fondre son système d'exploitation avec son navigateur, parce que c'était de ça dont on parlait.
Oui, c'est l'abus de position dominante.
C'est-à-dire que Microsoft serait devenu la porte d'accès unique au web, et ça, Microsoft a dû finalement y renoncer. Et puis, à force
et du coup, ça a donné naissance à qui ? À Google.
À Google, voilà.
Zoé Sfez, en lien avec ce que la France prépare, et on va évoquer dans un instant le rôle du ministère de la Culture, mais on a aussi là, concernant Amazon, mais aussi surtout Apple, des conséquences que ça peut avoir.
En fait, on a cette annonce de Franck Riester au début de cette année, donc le 3 septembre dernier. Franck Riester, qu'on a quand même, faut le dire, peu entendu depuis sa nomination à la rue de la Valois, qui a présenté son projet de loi sur l'audiovisuel public, qui va être donc présenté en novembre. Il espère le faire passer en janvier prochain. Et alors, il nous sort cette mesure très triomphaliste qu'il présente ainsi en disant « Il faut réaffirmer notre souveraineté culturelle, donner des moyens aux champions français de pouvoir rivaliser avec les champions européens, américains et chinois. » Et Franck Riester annonce donc qu'il va demander, il va obliger toutes les plateformes vidéo à la demande ou par abonnement, comme Netflix, comme Amazon Prime Video, mais aussi, donc on l'a dit, Disney et Apple, de consacrer au moins 16% de leur chiffre d'affaires à la création française. C'est un plancher qui a été fixé par décret, et qui, donc le montant réel pour chacun de ces groupes sera défini plus tard. Mais l'idée, c'est d'obliger tous ces gens à signer des conventions avec ce qui sera le successeur du CSA, puisque Franck Riester a annoncé que le CSA et Adopi fusionneront, en tout cas c'est ce que prévoit le projet, et tous ces gens-là devront signer cette convention qui les engage donc à financer la création française à hauteur de 16% du chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France, et s'ils refusent tout simplement de signer cette convention, Franck Riester menace tout simplement de les interdire d'émission. Alors, il y a plusieurs choses sur cette annonce. Effectivement, c'est une annonce relativement importante. Or, on sait aujourd'hui, on a beaucoup de mal déjà à savoir combien Netflix réalise de chiffre d'affaires en France. Donc déjà, ça suppose que les groupes nous donnent le chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans chacun des pays. Tous ces groupes-là, Disney+, Apple, Netflix, qu'ensuite, ils s'engagent à faire de la création française. Ensuite, si jamais ils refusaient de signer cette convention qui les engage, est-ce que Franck Riester pourrait réellement suspendre la diffusion de ces plateformes OTT en France ? Alors, il y a des questions techniques qui se posent. Alors, on a quand même l'impression que c'est une façon pour Franck Riester d'apaiser le milieu de la création, les producteurs, les auteurs en France, et de leur faire avaler, on va dire, deux couleuvres de types différents. La première, vous le savez, c'est la nomination de Dominique Boutonnat à la tête du CNC. Ça s'est passé cet été. Les producteurs et quasiment tous les acteurs du cinéma français continue de craindre beaucoup cette nomination, puisque Dominique Boutonnat, qui est producteur, était l'auteur d'un rapport qui, notamment, on en avait parlé en début d'année, qui vise à amener plus d'investissements privés dans le cinéma et à, d'une certaine manière, réformer le rôle du CNC, qui aujourd'hui, de financeur, premier financeur du cinéma français, deviendrait plutôt un gestionnaire qui aiderait à mettre en relation les producteurs avec des financeurs privés, grosse crainte des acteurs du cinéma. Et puis, tous ces acteurs producteurs indépendants, qui sont effectivement les premiers visés par cette réforme, ils craignent aussi beaucoup de choses de cette fameuse réforme de l'audiovisuel public telle qu'elle se profite aujourd'hui, puisque Franck Riester l'a dit, il prévoit dans ce texte d'assouplir la législation sur la publicité avec une publicité segmentée et géolocalisée. Mais d'une part, par exemple, aujourd'hui, les chaînes publiques pourraient diffuser plus de 3 coupures pub sur un film quand il passe à la télévision s'il fait un peu plus d'une heure trente. On sait aussi que les chaînes pourront diffuser des films de cinéma quand elles le veulent, donc il n'y aura plus les interdits sur le mercredi, sur le vendredi. Le but, c'est de pouvoir...
Ni
le samedi. Donc là, la limite, c'est 244 par an, celle proposée par Riester contre 192 aujourd'hui. Et puis par ailleurs, de toute façon, tous ces producteurs indépendants, aujourd'hui, ils ont très peur finalement que les chaînes, à l'aune de cette réforme, se désengagent. On attend de cette loi un équilibre et du respect envers les autres, c'est ce qu'a dit la présidente de la SACD ce week-end, c'était au festival de La Rochelle, où Franck Riester a encore essayé de calmer un petit peu les producteurs indépendants, mais l'idée, eh bien, c'est que quand les chaînes vont bien, les producteurs ne vont pas forcément mieux. En gros, on se rappelle que Canal+ a refusé de donner des droits pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois d'ailleurs, ça c'était l'année dernière. M6 a demandé à limiter sa contribution à la création et les obligations qu'elle a. Donc on a du côté de Franck Riester, avec cette annonce très très impressionnante, l'idée que bien, d'un coup il y a une avalanche d'argent qui va arriver de la part de ces acteurs existants ou qui vont arriver sur le marché français, sans pour autant régler les craintes disons, non seulement des acteurs de ce milieu, mais en particulier des acteurs les plus fragiles, ceux du cinéma indépendant.
Voilà, Franck Riester qui a d'ailleurs gagné dans la bataille un nouveau nom, on l'appelle Riesterix.
Riesterix, c'était Astérix. L'article de l'Opinion, Riesterix voilà. Contre Netflix.
Alors, et puis dans un tout autre registre, nous avons appris hier la mort de Robert Lion, grande figure de la gauche française, le Parti Socialiste d'abord, les écologistes ensuite. Robert Lion fut le premier directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy en 1981, puis le patron de la Caisse des dépôts et consignations. Il a joué un rôle majeur, notamment dans les grands travaux de François Mitterrand, je pense à la construction en particulier, puis à la gestion de la Grande Arche de la Défense, et plus récemment comme président de Greenpeace en France. Cet énarque était un techno, mais aussi un militant, ce qui est devenu rare. Il est mort vendredi à l'âge de 85 ans. Vous pouvez retrouver notre séquence Actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié sur le site de France Culture, page Soft Power. À suivre dans un instant, émission spéciale sur une région administrative spéciale, Hong Kong, un pays de système. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur Je suis africain, l'album posthume de Rachita, le chanteur d'origine algérienne décédé il y a un an. Ancien membre du groupe Quart de Séjour à l'époque, dans les années 80, des marches contre le racisme et de la version arabisante de 12 France, Rachita s'était lancé dans une carrière solo à partir du début des années 90. Une dizaine d'albums demeurent qui témoignent de sa passion pour toutes les musiques et tous les genres, une fusion cross-culturelle au-delà des frontières. Mort d'une maladie rare, la maladie d'Arnold Chiari ou Chiari, en septembre, il y a un an, il a laissé un album posthume qui sort donc cette semaine et dont le titre principal est ce morceau Je suis africain, je suis africain. Vous noterez qu'il englobe parmi les africains non seulement Aimé Césaire, Frantz Fanon, mais aussi Jacques Derrida, Malcolm X ou Jimi Hendrix. Rachita sur France Culture.
Je suis africain, de Paris à Bamako. Je suis africain, Fuji au Kilimanjaro. Africain, j'aime l'Afrique. Africain, fantasmagorique. Africain, de New York au Congo. Malcolm X, africain. Kateb Yassin, africain. Jimi Hendrix, africain. Jacques Derrida, africain. Angela Davis, africain. Frantz Fanon, africain. Lumumba, africain. Sankara, africain. Bob Marley, africain. Apateba, africain. Aimé Césaire, africain. Rachita, africain. Ah, africain.
France Culture, il est 18h passé de 31 minutes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Émission spéciale ce soir dans Soft Power en direct sur France Culture sur une région administrative spéciale, celle de Hong Kong dans la République populaire de Chine. Je cite là une publicité d'une page d'ailleurs dans Le Monde, c'est daté du 12 septembre, mais dans d'autres journaux aussi un peu partout à travers le monde où le gouvernement de Hong Kong a voulu un peu rétablir, disent-ils, les faits. Alors nous allons évoquer toute une série de questions ce soir. On aura un portrait de Joshua Wong, l'activiste, jeune activiste fort connu depuis la révolution des parapluies de 2014. On reviendra avec notre correspondante sur place à Hong Kong sur la situation aujourd'hui. On évoquera les aspects technologiques, reconnaissance faciale, réseaux sociaux, le rôle de Telegram, mais aussi la question de la surveillance bien sûr par la Chine. Mais peut-être pour commencer avec vous, Gilles Fontaine, je rappelle que vous publiez avec Eric Scholl, il est midi à Pékin chez Fayard. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur tout simplement c'est quoi Hong Kong d'un point de vue économique pour la Chine, ce qui explique beaucoup de ce qu'est la situation actuelle.
Oui, alors Hong Kong n'est plus tout à fait le Hong Kong de la rétrocession en 1997, mais ça reste une formidable puissance économique avec des infrastructures très performantes. Hein. L'aéroport de Hong Kong reste un des plus gros au monde, le 8e mondial.
Quand il n'est pas bloqué par les activistes.
Il n'est plus bloqué aujourd'hui par les activistes. Et puis, près de 60% des investissements directs étrangers continuent de passer par Hong Kong pour aller en Chine. Mais Hong Kong aujourd'hui, c'est plus que 3% du PIB de la Chine. C'était plus de 18% en 97 quand Hong Kong a été rétrocédé. De la même façon, on peut dire que on parle des infrastructures. Là aussi, Hong Kong a un petit peu reculé par rapport à la Chine. C'était le premier port de containers avec Singapour il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Aujourd'hui, il se classe plus que cinquième et puis loin derrière des ports, des gros ports chinois, Shanghai et quelques autres. Et puis, il y a cette énorme ville champignon
tentaculaire
à côté, c'est Shenzhen. Shenzhen qui n'existait pratiquement pas en 97. Ben aujourd'hui, c'est plus gros en termes de, beaucoup plus gros en termes de population puisque c'est 17 millions d'habitants.
C'était un village de pêcheurs et aujourd'hui,
voilà,
17 millions d'habitants.
17 millions d'habitants contre 7 millions et demi pour Hong Kong. Et puis, une croissance économique qui est beaucoup plus soutenue, évidemment, à Shenzhen. C'est plus de 7% de croissance en 2018. C'était plus que la Chine, toute la Chine réunie. Et alors que Hong Kong, on est plutôt autour de 3%. C'est plus simplement la plus grande usine du monde. Hein. Shenzhen, d'ailleurs, c'est un grand laboratoire. C'est devenu un vrai lieu d'innovation. Et puis, le PIB, on l'a dit, de Shenzhen aujourd'hui, il a dépassé l'an dernier celui de Hong Kong. Alors, le problème de Pékin aujourd'hui, c'est que Pékin a toujours besoin, en fait, de ce Hong Kong capitaliste. Et notamment parce que l'aristocratie rouge, les dirigeants chinois, ont placé leurs billes en Chine, notamment dans l'immobilier, mais aussi ont investi dans des fonds qui sont aujourd'hui dans les banques hongkongaises. Donc, la situation est un petit peu complexe. La bourse de Hong Kong a dévissé l'an dernier de 9%. Alors, un petit peu comme si les marchés avaient absorbé justement ce risque. Finalement, depuis le début de l'année, et malgré les manifestations, la place boursière de Hong Kong s'est plutôt pas trop mal tenue par rapport à l'année dernière. Mais en tout cas, c'est un équilibre fragile que doit essayer de maintenir Pékin aujourd'hui à Hong Kong. Hors de question, dans cette situation-là, si on pense purement économique, en termes purement économiques, d'envoyer les chars, parce qu'on détruirait et on fragiliserait un système économique et financier qui perdure maintenant depuis la rétrocession. Il faut se souvenir aussi que toutes les entreprises chinoises, la plupart des entreprises chinoises, Alibaba par exemple, a commencé par les États-Unis, mais s'introduisent en bourse à Hong Kong et non pas sur une place boursière comme Shanghai. Donc là aussi, les fonds levés par ces entreprises au cours des dernières années seraient un petit peu menacés. Voilà.
Alors là, on a la situation économique. Eliott Lepers, vous rentrez de Hong Kong. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les jeunes, mais d'ailleurs pas seulement les jeunes, puisque souvent les manifestations rassemble plus d'un million, parfois 2 millions de personnes dans les rues d'Hong Kong. Rappelons qu'Hong Kong, c'est une île, et puis d'ailleurs un territoire sur le continent, mais malgré tout assez petit. Qu'est-ce qu'ils demandent ?
Ils ont 5 demandes très claires, et la première en fait qui a lancé cette mobilisation en 2019, c'est évidemment le retrait de cette loi sur l'extradition, la fameuse extradition bill, qui facilitait donc l'extradition des ressortissants hongkongais vers la Chine.
En cas de crime ou en cas tout simplement de problème politique.
Exactement. Qui est en fait l'avancée vers cette date butoir, ce couperet de 2047, qui en fait marquera la fin des 50 ans de transition qui a commencé en 97 avec ce fameux handover, la rétrocession de l'Angleterre à la Chine de cette province autonome qu'est Hong Kong, quoi, qui est un statut à part, ce fameux un pays, deux systèmes, one country, two systems, qui fait qu'effectivement Hong Kong est à part, Hong Kong conduit à gauche, Hong Kong a des libertés fondamentales qui sont respectées, Hong Kong
en fait, Tiananmen, c'est un pays capitaliste, etc.
Et Hong Kong a son propre système judiciaire également.
Et monétaire.
Militaire. Et donc, et effectivement, tout ça va basculer en 2047. Donc, cette génération qui est née, en fait, entre 92 et 2005, et qui aujourd'hui a entre 16 et 25 ans, quoi, n'a aucune envie de se retrouver chinoise en 2047, n'a aucune envie de renoncer à ces libertés qui ont été acquises et qui aujourd'hui semblent nécessaires. Donc, ce qui se passe, c'est effectivement des manifestations qui s'organisaient de manière extrêmement spontanée avec l'histoire de 2014 en tête, 2014, où il y avait déjà
révolution des parapluies
qui s'était éteinte quand les leaders avaient été arrêtés, notamment Joshua Wong. Et donc une nouvelle organisation, 5 ans plus tard, complètement décentralisée, sans tête, sans leader, qui s'organise quasiment exclusivement en ligne, sans décisions qui sont prises par aucun organe que ce soit. Et donc on propose des idées et puis ensuite les gens les suivent ou pas, et ça donne parfois 100 personnes dans la rue, parfois 2 millions de personnes dans la rue.
Zoé Sfès, vous avez interviewé tout à l'heure et vous avez été avec notre correspondante à Hong Kong, où la situation s'est détériorée ce dimanche même.
Oui, Florence, de changer après un week-end, mais on l'a vu avec, comme l'a dit Elliot, des formes de mobilisation et donc des formes de moments de rupture assez différents. Florence de changer, à qui j'ai demandé en fait finalement pourquoi et comment, depuis le fameux retrait de cet amendement sur la loi des extraditions qui avait lancé le mouvement, pourquoi et comment le mouvement continue.
Alors en fait, depuis l'annonce du retrait du projet de loi, le 4 septembre par Carrie Lam, les manifestants et tous les opposants de ce mouvement ont presque immédiatement dit « c'est trop peu et trop tard ». Ils ont repris le même slogan qu'avant, c'est-à-dire « on a 5 revendications et pas une de moins ». Ce week-end, ce qui a eu de nouveau, c'était une manifestation, une marche qui n'a pas été autorisée. Normalement, la police doit donner ce qu'ils appellent une lettre de non-objection. De nouveau, la police, en fait, a fait une objection. Et comme il y a 15 jours, il y a eu malgré tout des gens qui se sont dit « bon, ben, c'est pas autorisé, mais on y participe quand même ». Et donc, on a vu de nouveau des dizaines de milliers de personnes dans les rues pendant quelques heures, en fait, 2 heures à peu près, et vers 5h30 l'après-midi, quand le cortège approchait des endroits stratégiques, névralgiques de Hong Kong, disons que c'est tout le quartier administratif, ça a très vite mal tourné, cocktail Molotov vers la police a sorti les fameux canons à eau avec des jets bleus qui marquent soi-disant les manifestants. Il y a eu des graves échauffourées dans une des stations de métro très importantes, la station de métro Admiralty, qui est un espèce de centre névralgique pour tous les transports sur l'île. Il faut dire quand même, peut-être que hier, par exemple, c'était une journée intéressante, si on peut dire, en ce sens qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées entre des manifestants et des anti-manifestants, parce que maintenant, c'est la nouvelle dynamique, en fait, qu'on observe, mais qu'il n'y a pas eu de confrontation avec la police hier. Aujourd'hui, par contre, il y a eu un certain nombre de confrontations avec la police. Mais moi, quand j'étais sur place vers 5, 6, 7 heures du soir, ils étaient tous en train de fuir de partout. Ils me disaient, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a été arrêté. Mais il y a eu des heurts beaucoup plus violents, par exemple, avec des triades dans certains quartiers qui sont connus pour être des quartiers de mafieux. Et il y avait déjà des images qui circulaient de blessés graves. Donc c'est confus. Voilà où on en est.
Alors vous, Florence, vous êtes à Hong Kong, mais quelle est la position de Pékin, notamment depuis que ce texte a finalement été retiré? Comment est-ce que vous interprétez l'apparition de ces fameux manifestants pro-régime chinois? Ils sont arrivés quand, ces contre-manifestants?
On les a vus presque dès le début sous forme de manifestations de soutien à la police, par exemple. Depuis quelques semaines, on les entend plus. Il y a quelques jours, dans un grand centre commercial, une apparition, disons, à l'heure du déjeuner. Beaucoup donc de pro-chinois ont déroulé le drapeau de Chine, alors que c'était dans un centre commercial très chic du quartier financier au IFC. Et ils ont commencé à chanter des slogans « Hong Kong, c'est la Chine, allez la Chine », etc. Et en deux temps, trois mouvements, ils ont été complètement entourés de manifestants qui sont très vite passés le mot et qui sont venus chanter encore plus fort qu'eux. C'est très difficile de dire dans quelle mesure c'est manipulé. J'ai l'impression que ce conflit est en train de devenir un conflit entre deux parties de la société. Les Hongkongais qui sont très attachés à leurs valeurs fondamentales et qui rejettent viscéralement le modèle chinois, et les Hongkongais pro-chinois ou les Chinois récemment arrivés à Hong Kong, qui eux ne voient pas d'autre solution que d'être absolument loyal vis-à-vis de Pékin.
Comment est-ce que vous lisez-vous l'évolution de la crise dans les jours, les semaines qui viennent? Qu'est-ce qu'on peut attendre notamment de la part de Pékin qui a déjà fait, disons, ce pas en autorisant le retrait du texte qui avait lancé le mouvement de contestation?
Je crois que très peu de gens, sans doute personne, ne sait vraiment comment cette crise va évoluer, même à Pékin. C'est très très compliqué pour Pékin parce qu'ils ont une certaine pression avec évidemment l'approche de leur anniversaire très symbolique du 70e anniversaire du début de la République populaire de Chine. Ils ne voudraient évidemment pas que cet anniversaire soit troublé. Ce qu'on entend ici, c'est que la Chine a compris et que le gouvernement a compris que de toute façon, ce ne serait pas réglé d'ici là. Est-ce qu'ils jouent l'enlisement et la fatigue de tout le monde? Carrie Lam a dit à plusieurs reprises, tout le monde est fatigué. Elle espère qu'en ayant lâché un petit peu de lest, elle va obtenir au moins un espace de respiration pour entamer le dialogue avec la communauté. Mais en fait, ce dialogue, peu de gens y croient parce que la plupart des gens disent c'est très clair ce qu'on veut, il n'y a pas besoin de dialoguer. On ne sait pas très bien ce qui se passe exactement, mais il est tout à fait possible que Hong Kong soit un pion dans le jeu très compliqué des luttes intestines du Parti communiste chinois. Et dès lors, c'est très très difficile à déchiffrer.
Voilà Florence de Changi, qui est donc correspondante à Hong Kong pour Radio France et notamment pour Le Monde, que j'ai eu au téléphone il y a trois petites heures, alors qu'elle rentrait des manifestations du centre de Hong Kong, puisqu'on l'a entendu, quasiment tous les transports étaient bloqués.
Et parce que là maintenant, il va être 2h du matin chez elle.
Exactement. Un petit point aussi sur un sujet qui est très utilisé d'un côté et de l'autre, du côté manifestant et du côté de l'exécutif hongkongais, sur le coût économique de ce mouvement après quasiment trois mois aujourd'hui. Hong Kong qui a enregistré cet été une baisse de 40% du nombre de ses touristes, ce qui est beaucoup par rapport à 2018, avec Cathay Pacific qui annonce une baisse de 12% sur un an de son trajet, sur son trafic passager, avec notamment les fameuses manifestations de l'aéroport. Beaucoup d'annulations d'événements importants cette rentrée pour Hong Kong, notamment l'Open WTA de Hong Kong, qui est donc un tournoi de tennis assez important et qui génère pas mal d'argent. Le Global Wellness Summit, qui est un sommet dédié au bien-être, ça n'a l'air de rien, mais c'est un événement économique qui se déporte sur Singapour, et beaucoup d'événements comme ça qui normalement sont attendus à Hong Kong sont en train de s'organiser aujourd'hui à Singapour. Et puis la plupart des spectacles, vous savez qu'il y a une espèce de Broadway hongkongais, même si c'est peu dire, qui annule et qui ferme. Alors la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que ce mouvement a un vrai coup? Les manifestants appellent parfois à utiliser la carte du portefeuille, hein, justement pour faire réagir Pékin, parce qu'on l'a dit, Gilles Fontaine l'a rappelé, c'est effectivement un argument de poids pour Pékin. Et l'exécutif hongkongais accuse le mouvement de faire perdre de l'argent à la ville. Mais effectivement, il faut le rappeler, Florence de Changy me l'expliquait, c'est 50 millions de Chinois continentaux qui viennent à Hong Kong, soit pour business, soit pour affaires, soit pour tourisme dans l'année. Et effectivement, ils sont pas venus depuis 3 mois. Mais il faut le rappeler, la récession, elle avait commencé bien avant, en réalité, sur fond de crise commerciale avec les États-Unis. Et les spécialistes de la Chine le disent, peut-être même que ces fameux businessmen et touristes chinois, ils ne seraient pas venus de toute façon cette année à Hong Kong, parce que l'année est difficile. Voilà, donc c'est une situation qu'on doit suivre, et ce coup, à la fin de l'année, au bout de 6 mois, il sera intéressant à essayer d'analyser.
Juste ajouter, enfin, d'une phrase, il ne faut pas oublier aussi que Hong Kong sert aussi de quartier général ou de base importante pour des entreprises qui font du business avec la Chine, et qu'un contrat signé à Hong Kong est plus mieux protégé qu'un contrat qui est signé
en termes de Shenzhen, droit, avec un droit de Shenzhen. Copyright, voilà. Etc.
France Culture, il est 18h46 dans Soft Power en direct ce soir. On parle de Hong Kong. Hong Kong où la situation s'est une nouvelle fois détériorée aujourd'hui. Elliot Lepers, vous rappeliez que les manifestants demandent le suffrage universel, donc la démocratie, le vote libre. Il demande aussi la libération des prisonniers et la fin des violences policières. Sur ce point particulier, où en est-on ?
Oui, c'est ça. Sur ces 5 demandes qui sont répétées, effectivement, 3 concernent les violences policières, avec notamment cette manifestation du 12 juin qui a été qualifiée d'émeute, et donc il demande qu'elle soit déqualifiée pour que, eh bien, tous les prisonniers qui ont été faits à cette occasion bénéficient d'une amnistie, et aussi qu'il y ait une enquête indépendante, un panel indépendant d'enquête sur les violences policières. Il y a plusieurs stations de métro qui ont été fermées, notamment Prince Edward qui a été fermé pendant plusieurs heures à la suite de manifestations où, eh bien, les policiers ont été filmés en train de tabasser plusieurs activistes, plusieurs passants. Et aujourd'hui, les images des caméras de surveillance ne sont pas diffusées. Donc ça, c'est une énorme demande, en fait, aujourd'hui, au-delà de la question de l'extradition bill, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à protéger cette population et comment est-ce qu'elle peut recroire dans le système. Donc la demande aujourd'hui sur ces 5 revendications, elle est d'avoir une réponse dans la communauté internationale pour faire pression sur Pékin, qui aujourd'hui empêche la police hongkongaise d'agir en toute indépendance.
Alors, je vous propose d'écouter une série d'entretiens que vous avez d'ailleurs, Elliot Lepers, réalisé pour nous comme chroniqueur de cette émission sur place à Hong Kong. On peut commencer sans doute par Louis, en l'occurrence.
Louis, qui a un nom d'emprunt. Très nombreux sont les activistes qui ne veulent pas donner leur vrai nom.
Culture de l'anonymat, mais il va expliquer pourquoi il la défend.
Louis est très actif à l'international sur plein de channels Telegram et il est très engagé sur la question des droits humains. Il nous explique effectivement comment est-ce qu'il s'organise.
No divisive propaganda or speech, no whistleblowing, no splitting among ourselves.
Pas de propagande qui divise, pas de dénonciation, pas de division entre nous. C'est un ensemble d'éthos qui ont été adoptés très tôt pour contrer la police et les autorités chinoises. Les Chinois ont essayé de diffuser de la propagande légère et de la propagande dure afin de décourager certains d'entre nous de participer aux manifestations.
Donc,
nous avons répondu en encourageant tout le monde à accepter nos différences.
Let's say when we are a protester, we only need to get.
Alors imaginez, lorsqu'on est un activiste, on a seulement besoin de faire ce que on a à faire. Vous n'avez pas besoin de connaître l'origine ou l'identité de tous les autres. Nous nous battons pour une vision, pour Hong Kong, donc il n'y a quasiment aucune raison de révéler notre identité aux autres. À l'inverse, si quelqu'un essaie de connaître notre identité, on suspecterait naturellement ses intentions. Parce que la seule personne qui, en fait, peut vouloir connaître notre identité, c'est la police. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'idée de révéler leur identité, ce qui est normal, on le respecte. Comme tous dans ce mouvement, nous n'avons pas besoin que tout le monde ait les mêmes valeurs. Chacun d'entre nous peut agir selon ses propres valeurs. Nous sommes un mouvement décentralisé et anonyme. Il y a déjà eu des mouvements similaires dans le monde. Mais jamais à cette échelle. Nous pensons que chacun peut agir en accord avec ses valeurs.
We won't judge others' values. We won't
Nous ne jugerons pas les valeurs des autres. Nous ne les considérerons pas comme des ennemis juste parce que nous n'agissons pas de la même manière qu'eux. Nous les soutiendrons tant qu'ils se battent pour Hong Kong, même si nous ne sommes pas d'accord avec les tactiques qu'ils choisissent.
Ça, c'est la fameuse horizontalité, finalement, où chacune et chacun est libre de proposer une organisation. Effectivement, le premier blocage de l'aéroport, ça a été proposé sur le LGHK, cet équivalent de Reddit, une plateforme de forum où on peut voter pour ou contre des propositions. Quelqu'un a proposé de faire ce qu'ils appellent un stress test du réseau ferré. Puis finalement, quelqu'un a dit plutôt allons à l'international, allons bloquer l'aéroport. Et puis quelqu'un a proposé une date. Et puis quelqu'un a fait un poster. Et puis c'est devenu l'événement qu'on a connu, le blocage international de l'aéroport de Hong Kong. Donc c'est organisé à travers des réseaux de messagerie sécurisés. Moi, j'ai assisté à un meeting où il y avait une personne qui faisait en direct, qui formait à l'utilisation de Telegram, cette messagerie qui est supposément sécurisée pour que tout le monde communique comme ça. Ils changent leurs identités avant de se rendre aux manifestations. Ils ont souvent plusieurs téléphones. Ils n'utilisent pas leur carte de transport avec leur identité. Ils utilisent parfois donc du cash pour pouvoir acheter des billets, pour pouvoir ne pas être retracés. Donc effectivement, il y a toute cette organisation un peu souterraine qui est devenue la base de leur mobilisation.
Alors c'est une culture hacker, une culture geek, et on a justement notre hacker et notre geek ici, Emmanuel Paquette. Comment vous voyez ces modes d'organisation ?
En fait, la crainte, c'est que cette technologie qui permet de protéger peut être aussi une technologie qui permet de surveiller et de tracer. Donc, comme le disait Elliot, c'est vrai que, par exemple, pour les tickets de métro, le conseil, c'est d'utiliser un ticket et pas un pass pour pas qu'on puisse suivre le transport et les déplacements d'un groupe ou d'une personne en particulier. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que sur Telegram, notamment, il y a eu des attaques informatiques qui ont été lancées dès le mois de juin. Pavel Durov, donc le fondateur de Telegram, a même commenté ça sur Internet en disant que une attaque DDoS était en cours. Alors une attaque DDoS, c'est on envoie des requêtes sur des serveurs pour les noyer.
Très nombreuses,
ouais. Voilà, pour les noyer, donc pour que la messagerie ne fonctionne plus. Et selon lui, les adresses Internet qui se connectaient massivement sur Telegram pour noyer Telegram venaient de Chine au moment du pic de protestation à Hong Kong. Donc pour lui, il était évident que le gouvernement chinois était à la manœuvre. Donc on voit bien quand même une corrélation entre la technologie qui peut protéger, mais elle peut aussi mettre en danger certaines vies. Autre point, comme le disait aussi Elliot, LIHKAG, donc qu'on appelle Linden en anglais, si j'ai bien compris, a permis en fait aussi à des groupes de lever très rapidement des fonds, pas loin $1 million en moins de 24 heures, notamment un groupe qui s'appelait Scorched Earth Team, donc ça veut dire l'équipe de la Terre brûlée. Et avec ce $1 million, l'idée c'était de prendre des pages de publicité dans la presse nationale et internationale pour faire valoir un petit peu les points de vue de tous ces protestants à l'international, donc dans la presse étrangère. Donc on voit que ça s'organise aussi au niveau de la communication à l'extérieur des frontières. Et puis dernier point, où là pour le coup il y avait une innovation à Hong Kong qu'on n'a pas vue précédemment dans les autres révolutions, notamment les révolutions du printemps arabe, c'est des systèmes de cartes dynamiques. Alors il y en a deux grandes en fait, une qui s'appelle hkmap.live, qui a été créée et administrée par une personne qui s'appelle Kuma, donc ça c'est un nom d'emprunt évidemment, qui permet de voir en temps réel ce qui se passe pour alerter les gens, pour qu'ils ne se rendent pas par exemple à un lieu dans lequel la police les attend, et de voir aussi où ils peuvent se retrouver pour un lieu de manifestation. Donc cette carte-là, moi je me suis connecté justement de venir, on voit qu'elle est encore disons très dynamique, il y a beaucoup de choses qui s'affichent, certes en chinois, donc j'ai pas pu tout comprendre, mais en tout cas voilà.
Même pas beaucoup. Mais...
Bien, voilà. Et il y en a une seconde qui s'appelle 103.hk, donc qui là est administrée par quelqu'un qui s'appelle Orca, qui là aussi permet de se connecter en direct. Donc si on croise les deux maps,
les deux cartes,
qui sont alimentées en direct par les protestants, qui sont aussi modérées, parce qu'il peut y avoir aussi des policiers qui essaient de s'infiltrer et de donner de fausses informations. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une modération autour de ces deux cartes dynamiques. C'est aujourd'hui un des éléments clés aussi de manifestation et de rassemblement des protestants à Hong Kong.
Zoé.
Mais alors justement, je pense qu'on va en parler avec Elliot, qui l'a vu de plus près que nous, mais effectivement, ce qui est très intéressant dans cette contestation et à regarder de l'extérieur, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'attributs des manifestations de Hong Kong. Maintenant, on les reconnaît, ils ont leur masque, ils ont leur casque, et ils ont aussi ces fameux lasers, parce qu'il y a toute cette défiance envers la déviance que représente la reconnaissance faciale. D'ailleurs, avec cette grande question, cette grande interrogation, est-ce qu'il y en a vraiment, est-ce qu'on s'en sert, est-ce que c'est des outils que la police utilise? Et c'est quand même intéressant parce que je pense qu'on parle très souvent ici dans Soft Power et d'intelligence artificielle et de ces algorithmes de surveillance dont on sait qu'ils sont beaucoup plus utilisés en Chine et en territoire chinois qu'en France. C'est intéressant cette contestation aussi à cet égard-là, parce que c'est peut-être une des premières où ces questions de la surveillance de masse et de la technologie sont vraiment prises en compte par les manifestants et essayent de l'intégrer. C'est un enjeu majeur et ça, c'est quand même un petit tournant dans l'histoire, je crois.
Et l'autre, le Perse, en termes d'outils, on a évoqué Telegram, sorte de mapping aussi, Reddit, etc. Comment vous voyez ces outils utilisés?
Alors, c'est des outils qui sont très grand public et qui sont des outils qui, a priori, sont assez peu connectés à la Chine. Et donc, il y a aussi l'idée de AirDrop, qui est une technologie développée par Apple, donc qui est disponible uniquement sur les iPhones. AirDrop, c'est du peer-to-peer, c'est du pair-à-pair. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer simplement d'un téléphone à un autre téléphone. Et ça, quand vous êtes dans une manifestation, vous activez AirDrop et vous recevez plein de messages ou de photos qui vous sont envoyés.
Sur ça, Gilles Fontaine ?
En fait, sur l'usage de la reconnaissance faciale, ce qu'évoquait tout à l'heure Zoé, moi je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les autorités chinoises aujourd'hui déploient de façon maîtrise ces technologies. Elles les ont développées, elles ont probablement des années voire des décennies d'avance sur ce que font les occidentaux. Reconnaissance faciale, oui, et reconnaissance même, les autorités chinoises sont aussi capables de reconnaître un individu d'après sa démarche. Oui. Donc effectivement, aujourd'hui les manifestants peuvent essayer avec ces fameux t-shirts, dont peut-être Emmanuel Paquette nous parlera tout à l'heure.
Oui, c'est ou le les spécialiste lasers, habillement de l'émission.
Spécialiste habillement.
Et les lasers bleus.
Mais le problème, c'est que les autorités, aujourd'hui, disposent d'autres moyens, d'autres technologies qu'on ne soupçonne pas, nous, évidemment, ici en Occident, pour retrouver les manifestants. Il faut se souvenir que Hong Kong est vraiment sur une faille digitale, en fait. De l'autre côté cette muraille, donc en Chine continentale, eh bien,
il n'y a plus Google, il n'y a plus Facebook,
etc.
Il y a Ren à la place, il y a les Weibo.
Exactement. Et effectivement, il y a eu une campagne Facebook, Twitter et YouTube ont annoncé avoir supprimé des comptes ou des chaînes YouTube qui étaient effectivement qui colportaient des fausses informations.
Oui, accusé d'être responsable de fake news sur Hong Kong, tout simplement.
Et exactement, qui accusait les manifestants d'être en fait qui traitaient les manifestants de terroristes à la solde de puissances étrangères.
Elliot.
Quand vous êtes dans les manifestations à Hong Kong, donc vous êtes survolé en permanence par des hélicoptères stationnaires, par des drones, et effectivement quand quelqu'un doit changer son masque ou par exemple doit enfiler un masque à gaz et donc changer. Donc il y a des petits masques qui sont vendus dans toutes les supérettes qui permettent de se protéger de la pollution plutôt. Donc tout le monde en porte dans toutes les manifestations pour se cacher uniquement, mais parfois on se change et on s'équipe d'un masque à gaz. À ce moment-là, vous avez 15 personnes qui surgissent avec leur parapluie et qui viennent vous recouvrir comme une sorte de carapace pour vous protéger des personnes qui sont sur les toits, des caméras de surveillance potentiellement, parce qu'ils ne savent pas comment peuvent être utilisées ces images.
Emmanuel.
Oui, d'ailleurs, ces mêmes parapluies, on les a trouvés autour des caméras de surveillance, puisque certains manifestants ont voulu les démonter. Et donc, pour se protéger, ils ont effectivement utilisé des parapluies. Les t-shirts dont je parlais précédemment en début de journal, effectivement, qui permettent de tromper l'intelligence artificielle qu'on retrouve facilement en vente sur Internet, on n'en a pas forcément vu à Hong Kong. Mais c'est vrai que c'est des systèmes qui commencent à arriver pour tromper l'intelligence artificielle, pour éviter d'être reconnu et pour éviter d'être surveillé. Donc ça, c'est quand même une mouvance globale. Et puis, ironie du sort quand même, une des plus grandes sociétés de reconnaissance vocale chinoise qui s'appelle Megvi est en train de préparer son introduction en bourse au mois d'août-septembre ou à la bourse de Hong Kong pour une valorisation en essayant de trouver à peu près 500 millions de dollars. Et du coup, elle est elle-même sous pression à cause de ce qui se passe à Hong Kong et a mis dans son prospectus d'introduction qui ferait tout pour qu'il fasse de la reconnaissance faciale pour le bien de l'humanité. Donc c'est un peu le même slogan que Google, Don't Be Evil, donc ne pas faire le mal. Ils ont repris la même formule pour une introduction en bourse d'une entreprise chinoise.
Soft Power, bientôt 19h en direct. Dans un instant, seconde partie de cette émission spéciale sur Hong Kong avec un portrait de Joshua Wong que nous avons rencontré sur place et plus largement le rôle des réseaux sociaux dans cette bataille. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Alors là, Elliot Lepers, nous sommes à Hong Kong, on est dans le métro.
On est à la station Mong Kok, qui est juste à côté de la station Prince Edward, où justement la veille ont eu lieu des affrontements avec la police. Deux jeunes filles qui sont dans le passage et qui chantent cette chanson, Say Hallelujah, Hallelujah to the Lord, qui était l'hymne un peu reconnu par tout le monde de cette mobilisation. Qui depuis a été remplacé d'ailleurs par une nouvelle vidéo qui a été tournée par un anonyme mise en ligne le 31 août, ouais. Plus d'un million
et là, 300 000 fois. On est à 1 300 000 fois en même pas deux semaines, c'est devenu l'hymne officiel. Donc il
et alors Zoé, justement, il y a tout un tas de symboles musicaux, mais aussi de peintures.
Mais oui, sur les symboles, c'est hyper intéressant de regarder le soft power de certaines idées, puisque les symboles sont très nombreux et différents. Donc déjà, il y a eu des reprises de ce qui avait été utilisé déjà au moment du mouvement des parapluies, puisqu'il y avait eu, à l'époque, on avait utilisé des chansons d'artistes hongkongais comme Beyond, il y avait eu l'hymne Raise the Umbrella, mais il y a le grand retour, disons, d'une grande chanson qui s'appelle Do You Hear the People Sing, donc Est-ce que vous entendez la volonté du peuple? Ça, c'est un des grands titres de la comédie de Broadway, Les Misérables, qui est française, mais qui a eu plus de succès aux États-Unis, qui a été beaucoup chanté, en tout cas au début du mouvement, et qui a été, donc toutes ces chansons-là ont été supplantées. Disons que depuis que le texte, l'amendement a été retiré, donc depuis le 4 septembre, on va dire la deuxième phase, le second souffle de cette mobilisation, il y a la création de cette hymne qui s'appelle Gloire à Hong Kong, Glory to Hong Kong, toi aussi entends ton chant en écho, etc. Et c'est devenu une bataille, disons, sonore, parce qu'on parlait des manifestants pro-chinois qui, vendredi ou mercredi dernier, sont rentrés dans un centre commercial hongkongais et ont commencé à entonner l'hymne national. D'un coup, il y a une mobilisation en ligne qui a fait que, du coup, tout ce centre commercial chantait en réponse ce nouvel hymne hongkongais.
On dirait le film Casablanca.
C'est magnifique.
Après les chants allemands, les Français se mettent à chanter la Marseillaise.
Exactement.
Dans un film américain.
C'est pas encore un Prévost-Garde, mais c'est
quand même. Il y a aussi Delacroix.
Il y a Delacroix, donc la liberté guide dans le peuple. Alors là, c'est pareil.
Là, ils le refont. C'est magnifique d'ailleurs.
Mais ce qui est drôle, c'est que c'est la révolution de 48. C'est les imaginaires de la révolution de 1848 française qui guide tout ça. Donc il y a eu une reprise sur Reddit, enfin sur le Reddit hongkongais, qu'on vous partagera sur le compte Twitter de Soft Power, où en fait on a une réinvention de la liberté guidant le peuple. C'est une jeune
avec les casques jaunes,
elle a tout, elle a un parapluie, elle a le casque jaune, elle a le laser anti-reconnaissance faciale, et elle est en train d'escalader une espèce de barricade, d'une barrière anti-peuple. Donc ça tourne beaucoup, ça marche très bien. Et évidemment, l'autre dernier symbole important et qui fait aussi là objet de destruction, c'est ce qu'on appelle les Lennon Wall, donc les murs de Lennon. Ça, c'est quelque chose qui vient ressorti de la manifestation de Prague, où Lennon avait fait un petit graffiti sur un mur pour donner son soutien. On était à Prague, et là c'est repris, mais là on fait pas de graffiti à Hong Kong, parce que c'est pas chouette les graffitis. On est dans une société très policée, on met des post-it. Et donc, il y a plein de murs, notamment de murs des bâtiments officiels, donc le bâtiment du Parlement.
Et des stations de métro.
Et des stations de métro.
Et ça, c'était déjà le cas pendant la révolution des parapluies, où tout le monde mettait des post-it partout, des petites phrases.
Et donc, c'est systématiquement enlevé, remis, enlevé.
De John Lennon, etc., etc. Qu'on retrouve un peu sous toutes ses formes.
Et le post-it est devenu, d'ailleurs, on le verra avec Rebecca, une employée de Cathay Pacific qu'on interviewe un peu plus tard, est devenu le post-it un élément politique. C'est devenu un signe de soutien, finalement, à cette mobilisation.
Ce soir, émission donc spéciale sur Hong Kong, dans Soft Power, en direct sur Soft Power sur France Culture. Pardon, on y est, Soft Power, France Culture, Soft Power.
Contrôle.
Et je vous propose maintenant un portrait de Joshua Wong, le jeune activiste hongkongais.
Although we are under 18, we are not just children.
Il parle vite, avec un accent anglais, fortement hongkongais. Né le 13 octobre 1996, Joshua Wong aura dans quelques jours 23 ans. Et comme il vient de le dire, les gamins qui manifestent ont beau avoir 16, 18 ou 22 ans, ce ne sont pas des enfants. Lorsque j'ai interviewé Joshua Wong dans un café de Hong Kong entre la révolution des parapluies de 2014 et le mouvement de protestation actuel de 2019, il se cherchait encore. Il vivait chez ses parents, un père ingénieur informatique, une mère qui a étudié le chinois et travaille dans une ONG familiale et sociale. Ses parents le soutiennent dans son activisme et le laissent libre. Ils ont peur, bien sûr, car Joshua Wong affronte un ennemi surpuissant et tentaculaire, la Chine. Mais sa mère n'est pas vraiment une maman poule, dit-il. On dit « tiger mum » en Asie. Ses parents sont prêts à supporter cet engagement de leur fils et les pressions auxquelles ils doivent faire face. Joshua Wong.
I live with my mom and dad. My dad work related to computer because he study computer, and my mom He studied Chinese actually, but she's now work in NGO related to the family counseling, something like that. They accept and support their son to involve in the movement. Yeah, because they really give enough flexibility to me. They are not really the tiger mom to fully control you. Yeah.
But in the beginning, they were afraid, no? A little bit.
They will, of course, be afraid, but I think I still can face the burden, and they can also face the pressure that they receive.
Joshua Wong est un activiste mondialement connu. Il a été en couverture du magazine Time. Il fut le leader le plus médiatique de la révolution des parapluies et Occupy Central à Hong Kong en 2014. Il est aujourd'hui au cœur des événements qui se déroulent actuellement à Hong Kong. Qu'est-ce que pour lui la politique se doit être, me dit-il, une chose qui appartient à la nouvelle génération, les jeunes.
I became interested in politics and I realized that politics should be the things owned by the new generation, the youth and teens. Yep.
Joshua Wong est l'homme d'un seul combat, le suffrage universel à Hong Kong. Il milite depuis le lycée pour la liberté de vote et des élections libres. Ses modèles sont Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix, et l'artiste Ai Weiwei. Il sait que le combat va être long. Est-ce qu'il est prêt à se battre, à continuer à être un activiste longtemps, plutôt que, par exemple, un professeur? À cette question, Joshua Wong répond que ça dépend comment on définit la politique. Ça dépend si on veut vraiment avoir le suffrage universel, dit-il. Mon futur est indexé sur les élections directes et libres. Si au lieu d'être un activiste, il s'agit d'être un professeur pour faire des analyses ou publier des articles internationaux dans les revues pour obtenir plus de budget de recherche. Il n'est pas intéressé par ça, me dit-il. J'ai l'espoir de faire bouger les choses, changer vraiment les choses pour avoir une vraie influence sur les gens et faire évoluer les mentalités.
How do you see yourself in, let's say, in 10 or 15 years?
I don't know. It depends on how you define politician. If you define politician, it's the people who organize social movement. Actually, I'm the politician, and the councilor are not politician. Even for myself, 10 years later, I don't know. I can't figure out because it depends on in these 2 or 3 years we can get any chance to get universal suffrage or not. What is the future for myself? It depends on first, when will Hong Kong get direct election? And secondly is, if you ask me whether I will interest to be a professor, just fully put the effort to to announce or publish the paper international, to grab the funding, to do a research. In this stage, I'm not interested in it because I hope to do the things that really can give effective and influence to change others' mindset.
Pour Joshua Wong, l'important c'est de conserver le même but, la démocratie. Et si ça doit prendre 30 ou 100 ans, peu importe. Si votre état d'esprit, dit-il, est de penser en termes d'années, alors on ne va pas tenir. Par contre, si on pense en termes d'objectifs, c'est-à-dire de démocratie, alors vous pouvez gagner. Il y a un véritable fossé générationnel, ajoute-t-il, entre les politiciens et nous, les étudiants. Le suffrage universel est la mission de notre génération et nous n'avons pas le droit de laisser cette bataille aux générations futures.
Are you ready for a fight that might endure for 30 years?
I don't know. Actually, if your mindset is we still need to fight for universal suffrage for 30 years, you will not really put full of your effort to fight in that battle. Because you will think that, if this time we lose, we still can have 10 or 20 or even 100 battles in the future. But if your mindset think that this is the final battle, and this is a battle we should win, and you will have your mindset to become the winner. And I think this is really the generation gap between the counselor or the politician that I need to meet and for the student. If universal suffrage is the mission for this generation, we should end this mission within our generation and not to pass this value or mission to the next generation. But finally, until now, people born after 2000, they joined to the strike already. I'm old already. I'm the post-19. Yeah.
Qu'est-ce qui fait courir Joshua Wong? Il me dit aimer l'action collective, aimer la force de l'action publique. Les activistes, les gens peuvent avoir un immense impact politique s'ils luttent. Et ils peuvent, dit-il, être plus puissants que les hommes politiques et les élus hongkongais officiels.
I love collective action. And I love to face public. I believe that while citizens or people gather, they can create the huge political power even more than any politician or government official.
À plusieurs reprises, Joshua Wong a été arrêté. Il a fait de la prison en 2014, en 2017 et encore cet été, en août 2019. Il est interdit de séjourner en Chine et son compte Weibo est régulièrement piraté, indirectement en tout cas, par les autorités chinoises.
Are you sad that you cannot go back to China anymore?
Not really, because actually I hope to go to Beijing to see Tiananmen.
Il n'est pas vraiment triste de ne pas pouvoir aller en Chine, dit-il, même s'il espère pouvoir se rendre à Pékin pour visiter Tiananmen. Joshua Wong est un activiste à l'âge de WhatsApp et du cloud, geek dans l'âme, hipster à la hongkongaise, c'est un passionné de technologie. Il a été parmi les créateurs de l'application FireChat pour avoir des discussions entre activistes qui soient sécurisés, comprenez, qui ne soient pas écoutés par les Chinois. Les activistes représentent-ils un mouvement digital actuellement? C'est la question que je lui ai posée. Ça dépend, me répond Joshua Wong, ce que vous entendez par mouvement digital. Avec mon association Scholarism, qui luttait pour la défense de la culture hongkongaise, on se mobilisait sur Facebook. Mais en fin de compte, ce qui est important, à la fin, c'est l'action dans la rue.
What you define or what is digital movement? For Scholarism, of course, every day we will use Facebook to be the regular method for us to do the to adopt the process of deliver the message of or political communication, something like that. But I think that finally the key factor to create the political burden to increase that cost of ruling Hong Kong, the only way should be the action on the street. Yeah.
So a real movement and not just a digital movement.
Digital is in the internet is just a way for you to spread the message or increase the momentum concern on this particular issue.
Aujourd'hui, Joshua Wong est une nouvelle fois à la tête des manifestations contre la Chine pour la défense de la langue cantonaise et pour le refus des lois chinoises. Un pays peut-être, et c'est bien triste, mais deux systèmes, ça, c'est obligatoire. Il sait que la bataille ne fait que commencer avec sa girlfriend qui est elle aussi une activiste, avec son amour de Hong Kong, de sa langue, de sa cuisine. Il est prêt pour les batailles à venir. Ce qu'il aime quand il a un peu de temps, justement, c'est manger. C'est d'avoir la nourriture délicieuse de Hong Kong, me dit-il. Et puis regarder des animations, des films et jouer à des jeux vidéo, la PS3, bien sûr. Après les meetings, il est temps pour les jeunes de se remettre à la PS3.
Food is really important. Eat. Eat the delicious food. Any food that's delicious. And secondly is just watch cartoon or play PS3. Yeah, in the office of Scholarism. We ran a place for us to have the meeting and the office, but of course we also placed a PS3 on the office. And before or after the meeting, it's the time for the boy to enter the room and to play the game. Yeah.
Merci à Edmund Cheng qui a facilité cet entretien sur place à Hong Kong avec Joshua Wong. Il m'a aidé pour les traductions des questions en cantonais. Vous avez vu, Joshua Wong parlait parfois difficilement anglais, mais on l'a accompagné dans cette traduction. Merci à Véronique Villa qui a monté cette interview, réalisée donc sur place à Hong Kong et qui est diffusée ce soir pour la première fois. Alors là, on écoute en direct à 19h16 sur France Culture un extrait que j'avais enregistré dans les rues de Hong Kong lors justement de la révolution des parapluies. Un mot peut-être, Elliot Lepers, sur Joshua Wong.
Il est reconnu comme étant un des rares qui sacrifie son identité et donc sa liberté pour permettre à tous les autres de rester anonymes. Et donc il en paye le prix fort. Il a été de nouveau arrêté le 30 août, puis il est resté incarcéré 48 heures, puis encore une fois le 8 septembre. Donc il est extrêmement menacé, effectivement. Il peut difficilement voyager en Chine, ça paraît être très peu probable. Et là, il a engagé une tournée internationale. Donc, il était en Europe et il était aux États-Unis pour demander un soutien international, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule...
Et ils le réclament beaucoup, les manifestants, notamment une réaction des États-Unis qui est en guerre contre la Chine, et puis peut-être de Londres, qui était leur ancienne tutelle et qui est censée être la garante de cette période de j'allais dire de hangover, mais c'est un très beau lapsus, non, de handover.
De rendre...
D'ailleurs, les États-Unis ont exclu d'inclure les négociations sur les droits humains à Hong Kong dans les négociations commerciales qui sont actuellement en cours entre les États-Unis et la Chine.
Un mot sur les réseaux sociaux, ça a été évoqué en début d'émission, ça a été évoqué aussi par Joshua Wong il y a quelques instants dans cet entretien qui avait été fait entre la révolution des parapluies et la révolution actuelle. Comment est-ce que, Gilles Fontaine, vous analysez cette utilisation un peu hongkongaise, spéciale, singulière des réseaux sociaux?
Alors effectivement, il y a l'utilisation, Elliot l'a un petit peu décrit, l'utilisation par les manifestants de nouvelles formes et de nouveaux outils qui puissent échapper évidemment aux autorités, au contrôle à la fois de la police de Hong Kong et de l'armée et de la police chinoise. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Chine et les autorités chinoises ont réagi. Elles ont mis un petit peu de temps d'ailleurs à enclencher le mouvement sous des campagnes clairement soutenues par l'État, téléguidées par Pékin, mais qui n'ont rien à voir avec les campagnes de trolls, les campagnes de fabrication de faux comptes, etc., qui avaient été, qui sont toujours d'ailleurs une grande spécialité des services russes. Là, c'est vraiment, on assiste vraiment à une campagne, alors probablement séquencée et ordonnée par Pékin, mais qui vient vraiment on a l'impression qu'il vient pratiquement de citoyens chinois. C'est alors un peu sur Twitter et Facebook et sur YouTube, on l'a dit tout à l'heure, mais beaucoup sur les réseaux sociaux chinois aussi, Weibo.
L'équivalent de Twitter.
L'équivalent de Twitter chinois véhicule beaucoup de ces messages de haine et de fake news. Et on avait assisté à peu près au même phénomène au moment du début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine l'année dernière, quand on a vu des campagnes de boycott de marques chinoises, notamment Apple a été la cible de ces campagnes de boycott, et d'ailleurs de toutes les entreprises qui sont investies d'une manière ou d'une autre sur le continent. C'était des campagnes massives impliquant des centaines de milliers, voire des millions de d'internautes chinois, et qui appelaient effectivement à ignorer, à bannir les marques chinoises de leur panier de courses.
Emmanuel Paquette.
Oui, effectivement, parce que c'est vrai que on a quand même deux stratégies totalement antagonistes. La première, c'est les manifestants qui veulent faire connaître leurs revendications dans le monde entier. Donc, utilisent des plateformes du type Twitch, par exemple, qui appartient à Amazon, pour filmer tout ce qui se passe à Hong Kong et le diffuser à l'international, ou Periscope, qui appartient à Twitter, donc pour diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux. Puis de l'autre, la Chine, qui, elle, ne veut pas que ces manifestations s'étendent en mainland, donc dans la Chine classique, et donc, grâce à la grande muraille numérique chinoise, permettre de faire de la censure en direct sur Weibo, dont on parlait précédemment, sur WeChat, pour éviter que des messages ne se répandent un peu trop en Chine et que n'éveillent d'autres manifestations un peu partout. Donc il y a cette crainte-là aussi que le feu qui aujourd'hui prend à Hong Kong ne couve un peu partout ailleurs en Chine, et d'essayer pour ça de brider l'instrument numérique pour éviter que toute cette manifestation-là s'étende à l'intérieur du pays.
Eliott de Perse, un mot sur Laurel que vous avez rencontré sur place.
Oui, Laurel Chor, elle est photojournaliste, elle est hongkongaise et elle est systématiquement sur la ligne, la première ligne de front des manifestations. Elle prend des photos et elle publie ses photos. Et effectivement, ces images, elles sont utilisées par la presse chinoise pour raconter un récit alternatif.
As in Yulong covering the protests and I saw a woman screaming bloody murder at the police.
J'étais à Wenlong pour couvrir les manifestations. Je vois une femme crier de toutes ses tripes face à la police. Je prends quelques photos, je les trouve pas mal, je les retouche et je les mets en ligne. Je crois qu'elles n'ont même pas été publiées. Personne ne les a choisies. Et le lendemain, quelqu'un a publié une vidéo de cette femme sur Twitter. Je me dis « Oh, mais je l'ai vue !» et je réponds à ce tweet avec une de mes photos. Ce tweet est devenu viral et les gens m'ont accusé d'avoir menti parce que la vidéo sous laquelle j'avais publié montrait cette femme en train de demander aux manifestants de partir.
Ça ne m'avait
pas paru contradictoire. Ils ont vu ça, j'ai vu autre chose. Mais les gens ont utilisé la vidéo pour montrer que la femme était opposée aux manifestations. Mais pour moi, elle disait plutôt aux manifestants de rentrer chez eux pour ne pas être blessée et elle était très émue.
And for a period of about 2 weeks, I was getting hundreds and hundreds of comments.
Et puis pendant près de 2 semaines, j'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires sur mes photos, des soutiens à la Chine, des condamnations des manifestations avec des drapeaux chinois.
I don't know if you can call them threats, but a lot of them were about my family, telling my mother to go die.
Je ne sais pas si on peut parler de menaces, mais beaucoup de commentaires ciblaient ma famille, disaient à ma mère d'aller mourir, et aussi beaucoup de commentaires très violents. Beaucoup de gens ont parlé de fake news, que c'était une mise en scène. Même China Daily a fait une vidéo à propos de ma photo. Puis le rédacteur en chef de Global China en a parlé, et ils ont tout dit en gros que la photo ne représentait pas la vérité.
Talked about it as well, and they basically said that the photo doesn't represent the truth.
Oui, donc elle a reçu des milliers de messages, d'appels au viol, de menaces de mort, évidemment. Donc ça a été quelque chose de très fort. Elle a été suivie un peu par les plateformes, par Facebook, Twitter, qui ont réagi plutôt positivement, qui ont supprimé beaucoup de messages en masse. Et effectivement, elle a été accusée de contribuer à une propagande pro Hong Kong. Elle dit également de manière intéressante que on a besoin finalement d'avoir une presse qui puisse faire son travail pour être présente, par exemple, dans les stations de métro comme Prince Edward. Ce qui est très fort, c'est de voir. Ça a été révélé le 19 août par Politico, comment les plateformes Facebook et Twitter sont intervenues pour supprimer en masse des comptes de robots chinois qui diffusaient de la propagande pro-chinoise et anti-Hong Kong. Est-ce qui est assez nouveau comme réaction de la part de ces plateformes?
Alors maintenant, on écoute Rebecca. Alors là, c'est une toute autre histoire. C'est le volet un peu sanction après avoir s'être mobilisée sur les réseaux sociaux.
Rebecca, elle est salariée de Cathay Pacific, qui est la grande compagnie aérienne hongkongaise qui est détenue à 30% par Air China. Rupert Hogg et John Cesar, qui étaient les responsables de Cathay Pacific, ont été remerciés officiellement parce qu'ils partaient à la retraite, en tout cas. Et puis derrière, des dizaines de salariés de Cathay Pacific ont également été remerciés.
Je crois qu'ils ont refusé de donner des noms,
de communiquer les listes de
manifestants au pouvoir chinois, et donc ils ont préféré en fait se faire remercier, et ils ont d'ailleurs été accueillis comme des héros, je crois, par les manifestants hongkongais.
On l'écoute.
The other day I received a call from the company and then Rebecca, you have to come back to the office within 2 hours. So
l'autre jour, j'ai reçu un appel de mon entreprise qui m'a demandé de revenir au bureau dans les 2 heures. J'ai dit d'accord, je m'étais rendu à une réunion pour discuter de ce qui se passe à Hong Kong. Lorsque je suis arrivé à mon bureau, un de mes supérieurs m'a escorté jusqu'à une autre pièce où peu après nous nous sommes assis. Ils m'ont alors montré 3 posts Facebook que j'avais publiés. 2 des 3 posts avaient été utilisés par des personnes qui n'étaient pas d'accord avec mes positions politiques pour mentir à mon sujet et dire que j'encourage la violence.
Cela m'est égal. Je ne suis pas la seule à souffrir à Hong Kong. Mais je ne pouvais pas croire que mon employeur utilisait ce genre d'informations contre moi. Ils m'ont demandé si ces posts Facebook étaient les miens. Je leur ai dit évidemment que oui, c'était le cas et que je ne voyais pas où était le problème. Ils m'ont alors dit que j'étais immédiatement relevé de mes fonctions, sans aucune autre explication. Ils ont ajouté « Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous donner d'autres explications ». Ensuite, ils m'ont juste demandé de leur remettre mon badge, ma carte médicale de l'entreprise, et ensuite, ils m'ont demandé de partir. Depuis, je ne suis jamais revenu.
Et donc, des dizaines, on ne sait pas exactement le nombre de salariés de Cathay Pacific qui ont été comme ça remerciés. Elle parle à visage découvert, elle tient des meetings où elle exprime, où elle explique sa situation. Et aujourd'hui, elle est déterminée à se battre. Elle était donc représentante syndicale. Elle est déterminée à obtenir réparation sur ce sujet. Mais on a aussi le directeur de la HKU, la Hong Kong Université, qui a également été remercié pour avoir tenu des propos de soutien à la mobilisation pro-démocratie.
L'histoire de Cathay Pacific est intéressante, effectivement, parce que les autorités chinoises interdisent au personnel de Cathay Pacific qui ont manifesté de survoler et a fortiori de faire escale sur le mainland chinois. C'est-à-dire que ça pose de gros problèmes effectivement à la compagnie qui a dû gérer dans une période un petit peu compliquée le passage de ses personnels au-dessus du sol chinois.
Bien, cette émission touche à sa fin. Peut-être un mot de conclusion. On voit quelle évolution. Je me souviens de ces deux livres de Chris Patten, qui était le dernier gouverneur britannique de Hong Kong de 92 à 97. Il a publié East, West et First Confession. Confession est déjà à l'époque, il montrait que tout ça allait sans doute mal se terminer. Il était très critique même avec la négociation que les Anglais avaient menée au moment de cette rétrocession. La suite, comment vous la voyez les uns les autres en 15 secondes?
On va avoir déjà un rendez-vous important, c'est le 1er octobre prochain, puisque c'est l'anniversaire, les 70 ans de la création de la République populaire de Chine. Pékin
ne souhaite pas que ce soit perturbé.
On souhaiterait que tout se passe calmement et tranquillement. Et du côté des manifestants, je pense que Elliot nous l'a bien décrit, on est disposé à faire effectivement tout ce qui est possible pour perturber ces événements et ces festivités.
Pour l'instant, effectivement, les points faibles qui étaient les leurs en 2014, ils ont été réglés et donc ils sont en mesure de continuer à se mobiliser très massivement. Le soutien de la population faiblit un petit peu avec l'escalade des violences et donc il y a un gros enjeu de communication, de montrer qu'ils ne sont pas à l'origine de ces violences et donc d'obtenir, et ça c'est la prochaine étape, d'obtenir une réponse internationale pour faire condamner ces violences policières et qu'ils puissent continuer à manifester librement.
Derrière Hong Kong, il y a quand même Taïwan, il faut quand même le penser. Taïwan, il va y avoir des élections bientôt et c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que
Pékin, en tout cas, ça donne aussi un mauvais exemple.
Ça donne un mauvais exemple, ils ne passeront pas entre les gouttes et c'est pareil, Pékin ne peut pas envoyer des chars à Taïwan. Oui. Donc c'est quand même, tout ça est très intéressant.
Taïwan est un pays.
Est un pays, mais bon, même...
Plus ou moins reconnu.
Pendant que les troupes quand même chinoises continuent de s'accumuler à Shenzhen à quelques kilomètres. Voilà.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous tous. Emmanuel Paquet de L'Express, Gilles Fontaine de Challenge, Zoé 16 France Culture et Elliot Lepers. Merci Elliot d'avoir, pour les entretiens que vous avez réalisés pour France Culture comme chroniqueur la semaine dernière, donc à Hong Kong. Pour aller plus loin sur toutes ces questions, références, articles et livres dont on a parlé durant cette émission sur Hong Kong, les musiques aussi qu'on a diffusées, bien d'autres informations sont à retrouver sur le site de France Culture. La semaine prochaine, dans Soft Hour, nous consacrerons notre émission au Brexit culturel. On parlera aussi de la 5G. Et dans un instant, Carbone 14, magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. J'ai encore le temps de vous dire que le philosophe Frédéric Worms sera l'invité demain, des matins de France Culture, à ne pas rater donc demain matin. En attendant, merci à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.